Voilà, bonjour, ça va bien?
Oui.
Alors, on n'a pas encore tout à fait le soleil, mais enfin, bon, on est encore au mois de mars, hein, faut pas charrier non plus. Mais c'est joli, on voit le soir les bourgeons qui bourgeonnent, les papillons qui papillonnent, les fleurs qui fleuronnent. Je vais faire un petit coucou, vous savez à qui? À Grazelia, et à son mari, et à sa famille. Bonjour,
bonjour.
Voilà, c'est des nouveaux amis merveilleux. Eh bien, on dit bonjour aussi à tous les autres, bien sûr, mais voilà, je voulais faire un petit coucou spécial. Bien, ce matin, on va ouvrir nos Bibles dans Jean, chapitre 17, verset... Toujours des tas de choses qui tombent de ma Bible. Jean 17, 25... Jean 17, 25 à 26. Alors... J'y suis. C'est Jésus qui prie, « Père, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci, donc il parlait de ses disciples, que tu m'as, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ai fait connaître encore, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. » C'est un très beau texte, c'est tiré, c'est une prière, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, une prière magnifique. Et voilà, Jésus dit, bon, le monde ne t'a pas connu, c'est le monde. C'est le monde. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, on est d'ailleurs. À Pilate, il lui a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, eh bien, mes serviteurs auraient pris ma défense. Mais bon, là, il trichait un peu, parce qu'il aurait très bien pu appeler des anges et puis mettre la pâtée à Pilate, Hérode et tous les autres. Mais il l'a pas fait parce que ce qu'il voulait, justement, c'était venir donner sa vie afin que nous puissions être sauvés. Mais son royaume n'est pas de ce monde, et notre, c'est pas encore... Nous sommes ici, on n'est pas chez nous. La Bible nous dit que ici, le monde, cette terre, cette planète Terre, le prince de ce monde, c'est le diable, c'est Satan. Alors, c'est pas étonnant que, voilà, il nous embête, hein. Mais moi, je crois qu'on l'embête plus qu'autre chose. Je crois que c'est nous les adversaires du diable et non pas le contraire. Il faut voir les choses à leur juste valeur. Jésus dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, hein, voilà. Alors, même à des moments, ça se sent un peu déstabilisé, mais il faut pas. Il faut pas rester dans cet état-là. On a le droit, hein, de temps en temps, d'être un petit peu déstabilisé. Parce qu'on est encore dans la chair, et puis on a des émotions, et puis voilà. Hein, bon, vous me connaissez, j'ai des émotions, je les exprime tout de suite. Si je n'exprime pas tout de suite, après je me rends malade. Alors maintenant c'est fini, j'exprime tout de suite. Donc, tout de suite. Ou je pleure. Enfin, j'exprime. Et je trouve que c'est très bien de faire comme ça. Donc le monde n'a pas connu le Père, et il ne le connaît toujours pas. Hein. Nous avons de plus en plus de personnes qui viennent nous écouter sur Révélation Bible grâce à Facebook, puisque maintenant nous avons une page Facebook qui s'appelle Révélation Bible. Alors on a de plus en plus de monde qui vient. Et les chrétiens me disent tous Amen, gloire à Dieu, c'est bien, Alléluia. Il y a des gens qui envoient des requêtes de prière. Mais ceux qui écrivent le plus, c'est ceux qui détestent les choses de Dieu et m'insultent. Alors j'ose même pas vous dire les choses qu'ils disent, c'est effarant. Alors si vous m'écoutez aujourd'hui, sachez que bon, je suis effaré de voir que voilà, qu'est-ce que vous voulez. Moi je veux même pas chercher à vous convaincre et vous allez voir pourquoi je veux même pas chercher à vous convaincre. Je vais l'expliquer tout à l'heure. En lisant les paroles de Jésus, c'est un peu comme si on entendait dire au Père, si seulement le monde te connaissait, mais voilà. Le monde ne connaît pas. Dans ce merveilleux chapitre 17, qui est donc la prière de Jésus en notre faveur, en la faveur de ses disciples, Jésus dit à son Père, « J'ai accompli tout ce que tu m'as demandé. » J'ai accompli tout ce que tu m'as demandé. Jésus-Christ a été obéissant jusqu'au bout, pour tout, il a tout fait. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, il l'a fait en obéissance à son Père. Et je veux prier pour que vous compreniez bien pourquoi je vous dis ça. Seigneur, je te prie pour que mes frères et sœurs qui écoutent ou qui regardent la vidéo comprennent bien pourquoi j'insiste sur ce fait. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen. tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait a été accompli parce que son Père lui a dit de le faire. Jésus n'était guidé par aucun motif personnel. Nous non plus, malgré ce que les gens pourraient penser, parce qu'il y a des gens qui pensent que nous, notre but, et en particulier le mien, c'est de vivre dans un château. On y a renoncé au château. Quand on a vu que il y a des gens qui nous causaient des problèmes, on est parti, on leur a laissé. On n'est pas là pour des motifs personnels. On est là pour faire l'œuvre de Dieu. Alors écoutez Jésus qui dit « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Jean 8, 28. Voilà. Et nous, nous faisons, nous essayons, nous efforçons de faire ce que le Seigneur nous a enseigné. Jésus est notre exemple, notre parfait exemple. Et pour que notre vie humaine soit bien dirigée selon le plan divin et non pas selon nos idées, les meilleures soient-elles, les plus belles soient-elles, il faut que ça soit dirigé selon le plan divin de Dieu, eh bien, nous avons cet appel de Jésus qui nous dit « Viens et suis-moi ». On trouve ça dans Matthieu 19, 21. « Viens et suis-moi ». Mais on ne vient pas pour suivre Jésus en lui disant « Bon, moi je pense que, à mon avis, tu ne devrais pas... Oui, non, écoute, tu es trop dur, moi je suis meilleur que toi, lui je pardonne, comment ça se fait que, nini, gna gna. Vous savez, il y a des gens comme ça, hein, c'est bizarre, hein, j'en ai... Oh, Jésus, il est exigeant, non, moi je vois pas ça comme ça. Ils veulent pas ce que Jésus veut, vraiment. Ils disent aimer Jésus, ils aiment certainement Jésus, mais se trompent sur les intentions réelles de Jésus. Si nous nous mettons à l'écoute de sa volonté qui est écrite, elle est écrite. Si vous lisez ce qui est écrit là, c'est comme si vous l'entendiez parler. Lui, les apôtres ont bien retranscrit ce qu'il a dit. Si vous faites ce qu'il dit, même vos fardeaux vous sembleront plus légers. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, prenez mon fardeau, mon joug, il est léger. Alors, en fait, nos fardeaux sont plus nos fardeaux, c'est les siens et on porte avec lui sur cette terre. Alors, par exemple, l'histoire du château, ben, c'est pas mon fardeau, hein, c'est pas mon œuvre, c'est pas moi qui ai voulu, c'est pas moi qui veux. Il faut que la volonté de Dieu se fasse. Alors je dis, Seigneur, c'est ton œuvre, tu t'en occupes, et puis voilà, puis nous on fait ce qu'on peut de notre côté, et puis on porte le fardeau à deux, lui et nous. Amen. C'est comme ça ou c'est pas comme ça? C'est comme ça. C'est pas notre intérêt, c'est pas ça qu'on cherche. Alors. Les gens compliquent les choses. Les gens compliquent les choses sacrées à un tel point que ça devient même inaccessible aux gens. Ça devient inaccessible. Alors, on va voir un petit peu ça ce matin. On va remettre les choses à plat, tout simple. La vérité, c'est que ce que nous donnent les Écritures, c'est que Jésus était avant que le monde fût. Voilà, ça, c'est une chose qui est écrite. C'est clair, c'est net. Et que nous aussi, nous sommes des esprits éternels. Pas vous, pas votre âme. L'âme, c'est l'être. L'être, c'est être avec votre corps qui a été créé. Voilà, ça, c'est vous. Et c'est ça qui va être sauvé. Mais votre esprit, l'esprit qui est en vous, cette vie qui vous anime, qui anime votre être, justement, votre âme, eh bien, cet esprit, il est éternel, aussi éternel que Jésus. Les Écritures nous apprennent que Jésus est né dans un corps semblable au nôtre. Et qu'il grandissait, qu'il croissait, qu'il progressait en esprit. Luc 2, 40. Les Écritures nous enseignent aussi que nous sommes nés dans un corps de chair et que nous sommes nés de nouveau en passant par la repentance et que depuis que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes passés par la repentance, son esprit est venu habiter en nous et nous croissons en esprit. Je suis désolé, je suis plus le même Michel Janton qu'il y a 20 ans. J'ai cru, ça fait drôle, hein, j'ai progressé, voilà, plus exactement, j'ai grandi. En étudiant, en appliquant les choses que j'ai étudiées, les principes sacrés de l'Évangile. Je fais des expériences, je fais des boulettes, je fais des... Voilà, et j'ai grandi. Ensuite, nous apprenons par les Écritures que Jésus-Christ croissait en sagesse. On pourrait se dire, ah bon ? Bien sûr, il est dit que nous aussi, nous avons à croître en sagesse par l'instruction, par l'éducation, par les bonnes décisions que nous faisons, par les expériences. Jésus a passé par là, hein. Il a passé par là aussi. Sa mère, Marie, elle a dû l'éduquer. Ouh, de temps en temps, serrer la vis. C'est un gamin. Il nous est dit aussi, toujours dans Luc 2, 40, que Jésus croissait en stature. Hein? Oh, le petit Jésus. Il voit toujours le petit Jésus ligoté dans une crèche. Mais attendez, il est déjà sur terre, il est devenu un homme balèze. Parce que moi, j'étais en Israël avec Michou. Eh ben, on a vu, hein, il faisait tout ça à pied. Heureusement, on avait une super bagnole. il devait être balèze pour faire tout ça. C'est vrai. Et nous aussi, on croit, c'est-à-dire on grandit. Puis là, d'ailleurs, avec Stéphane, on a décidé, on avait arrêté un petit peu, mais on va reprendre la muscule. Parce que... Au verset 52, il croissait en grâce devant Dieu. Et nous croissons en grâce, en respectant ce que Jésus dit. Nous croissons en grâce devant Dieu, nous aussi, en respectant ce que Jésus dit. Toujours dans Luc 52, 52, il nous est dit que Jésus croissait devant les hommes, devant les femmes aussi, je pense. Qu'est-ce que ça signifie ? Ben, c'est pas compliqué. Les mots signifient ce qu'ils veulent dire. Si on a des mots, c'est pour comprendre ce qui est à comprendre. Hein? Ça veut dire que Jésus obtenait la confiance de ses parents, par exemple, et des autres, en faisant preuve de plus en plus de maturité, de prise de responsabilité, et voilà. C'est comme ça qu'il croissait devant les hommes, en sagesse. Et voilà. Nous aussi, c'est pas différent. Nous aussi, on a à croître en grâce devant les gens pour obtenir la confiance, par exemple, déjà de nos parents, hein, ensuite de nos frères et sœurs, de nos amis, de nos collègues de travail, de nos copains, enfin, tout le monde, quoi. Et même des gens qui nous voient dans la rue, s'ils savent que vous êtes chrétien et puis que, il faut que vous ayez un bon témoignage et il faut qu'ils puissent dire, voilà, ça, je vois, ça c'est quelqu'un de spécial. Alors, comment on fait? C'est en faisant preuve, nous aussi, de plus en plus de maturité et de responsabilité, on devient des gens responsables. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Eh bien, que Jésus, couché, j'aime bien dire ligoté, c'est écrit emmailloté, couché et emmailloté dans une crèche. Puis un jour j'ai entendu un gitan qui se trompait en prêchant et puis qui disait couché et ligoté dans une crèche. Ça m'a tellement fait rigoler que maintenant chaque fois que je cite ça, je pense à ligoté. Jésus était dans la crèche, mais il n'était pas le même Jésus dans la crèche que quand il était sur la montagne en train d'enseigner les gens. Arrêtez! Il était parfaitement Dieu dans un homme, mais l'homme avait besoin de grandir. Et Jésus n'était pas le même entre le moment du sermon sur la montagne et le moment où il est mort sur la croix et au moment où il est ressuscité. On dit Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, Dieu, Jésus-Christ, Dieu, mais Jésus-Christ, homme, dans un corps semblable au nôtre. Et franchement, il n'a pas reçu la plénitude d'esprit dans la crèche à sa naissance. Il a développé grâce sur grâce. Ça signifie qu'il n'avait pas une connaissance absolue de son identité et de sa mission à l'âge de 2 ans. Faut pas venir me raconter des histoires. Il ne possédait pas non plus tout le pouvoir avant de le recevoir. Et ce n'est qu'après sa résurrection qu'il va déclarer « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, même sous la terre. » Alors, je vous dis en vérité, il a reçu de la connaissance, il a reçu du pouvoir de son Père par l'obéissance. Et je ne vous raconte pas des histoires. On va lire Hébreux chapitre 5, versets 8-9. Écoutez ça. J'ai dit quoi, 5, 9 ? 5, 8, 9. Oui, alors c'est ainsi, bien qu'étant fils de Dieu, donc, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Pas parce qu'il a souffert, mais par ce qu'il a souffert. est parfaitement qualifié, donc il n'était pas au départ, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Donc, il a appris l'obéissance au travers des choses qu'il a souffertes, et il est devenu pleinement qualifié, et il est devenu, pour tous ceux qui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Vous voyez ce vous voyez, bien sûr que Jésus, son esprit est divin, il est Dieu, mais dans un homme qui a dû passer par tous les trucs que nous passons, nous. Attendez, on va aller plus loin maintenant. Eh bien, nous n'avions pas non plus la pleine compréhension de notre identité et de notre raison d'être le jour de notre naissance. Par exemple, Olivier, aujourd'hui, il a 13 ans. Non, il a attaqué l'âge aujourd'hui.
Je ne rajeunis pas d'un seul coup comme ça.
Non, mais non. Ça te fait 30 ans aujourd'hui. Waouh, bravo. Je vous garantis. Là, l'autre jour, je voulais vider mon ordinateur parce qu'il y avait trop de photos. Je suis tombé sur des photos rigolotes, mais rigolotes, où on voit Olivier, un petit boulot. C'est vraiment quoi, ce que t'es devenu magnifique. Et puis plein de talents, mais il les a développés, des heures à développer. C'est comme, voilà! Olivier ne connaissait, il était pas comme ça quand il était gamin. Il était magnifique déjà, mais il est encore mieux maintenant, non? Ben oui, bande d'hypocrites. Non, c'est vrai. Il est génial. Et puis Élise. Alors elle, c'est son anniversaire, c'est mercredi. Bravo. Alors, j'ai trouvé des photos de toi en train de te chamailler avec ton frangin. Vous vous roulez par terre comme des animaux qui sont en train de jouer. C'est trop rigolo. On va faire. Faut qu'on fasse un musée de la communauté où on mettra tous ces trucs-là. C'est vrai. Pourquoi on est des stars, nous non, hein? Il n'y en a pas beaucoup des comme nous, hein, qui vivent en communauté depuis combien? 77. Pas 77 ans, mais depuis 1977. Alors, tout ça, ça s'est développé progressivement, non? Bien sûr, ça s'est développé progressivement. Et Dieu qui nous donne de la connaissance, c'est lui qui nous donne de la connaissance, c'est lui qui nous donne du pouvoir, mais il le donne petit à petit par le Saint-Esprit, qui est donné à qui? Qui est donné à ceux qui lui obéissent. C'est encore dans Actes 5, 32. Donc, c'est pas des choses, c'est pas n'importe comment. C'est pas simplement Dieu a un bon cœur, et puis, ah, oh, ben voilà. Non, il y a des principes. C'est pour ça que je dis toujours, faut revenir au principe de l'évangile. Par contre, à ceux qui connaissent la volonté de Dieu, qui connaissent la Bible, qui connaissent les écrits saints, sacrés, et qui n'obéissent pas, ben, on va lire. À leur sujet, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, 11. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Ils ne les condamnent pas d'emblée, mais comme ils prennent plaisir à l'injustice et qu'ils n'aiment pas la vérité, bon ben Dieu les pousse là-dedans. Allez, tu aimes ça, ben continue. Et il leur met un esprit d'aveuglement, d'égarement. Je vais vous expliquer que c'est encore une grâce de Dieu, un signe d'amour de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, qui envoie une puissance d'égarement? Dieu à qui? À ceux qui n'ont pas accueilli la vérité pour être sauvés. Alors, vous lirez tout le chapitre, vous verrez. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12, vous direz tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Alors, à quoi bon je vais m'acharner à essayer de leur faire comprendre, à ces gens-là, quelque chose, puisque Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. Vous voyez? Vous comprenez? On leur a dit une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, ils veulent pas. Ben, voilà, ben maintenant ils sont pris dans un système d'égarement, puis voilà. Est-ce que Dieu serait injuste? Est-ce que Dieu serait cruel? Non! C'est simple à comprendre, c'est pas compliqué, c'est simple à comprendre. Si quelqu'un ne veut pas le suivre, ne veut pas suivre Jésus selon les principes de l'évangile, c'est qu'il a ses raisons. On dit pas je veux pas suivre Jésus, mais je sais que j'ai tort. On a nos raisons. On dit non, je veux pas suivre Jésus parce que j'aime mieux mon péché que Jésus. Si je suis Jésus, je sais que je ne pourrais plus faire comme ça et comme ça et comme ça. Ah ben non, alors, hein? Ceux qui ne veulent pas marcher avec Jésus, c'est parce qu'ils aiment par exemple plus l'argent que Jésus. Mais il y en a plein des comme ça. Pas tous les riches, mais il y en a pas mal, hein. Ils aiment leur argent, même des pauvres, hein. Il y a même des pauvres, ils sont toujours, vous pouvez pas leur parler de Jésus, c'est toujours, c'est l'argent, l'argent, il court après l'argent. Il y a une chanson de Claude François qui dit, mais après quoi je cours? Ben, la réponse est simple, hein. Le monde court après quoi?
Sylvie Vartan?
Non, l'argent, l'argent. Et puis, il y en a qui aiment plus les saints que Dieu. Ils aiment, voilà, ils pensent que prier Marie, c'est mieux, parce que Marie, elle est plus gentille que Jésus, parce qu'en général, une femme, c'est plus gentil qu'un homme. Puis prier Jésus, c'est mieux que de prier le Père, parce que le Père, il est austère, Jésus, déjà, c'est un petit peu mieux. Mais par contre, il y a, en dessous de Marie, il y a encore d'autres qui sont, on peut prier Sainte Machin, Sainte Dugule, Sainte Cunégonde, parce que c'est des gens, n'est-ce pas, qui ont, voilà, c'est, ils sont un peu comme nous, donc, mais c'est faux, on doit pas. Ils aiment plus ces gens-là que... Je me rappelle, je parlais avec un enseignant jésuite un jour, j'avais été à un séminaire avec Marc Croza, et puis c'était des jésuites, c'était très intéressant, puis on avait le droit de parler seulement un quart d'heure par jour, donc j'ai été parler avec cet enseignant, puis il me dit, ah, je vois dans mes notes que vous êtes pasteur, alors vous avez dû remarquer que je connais pas beaucoup la Bible. Je dis, bah oui, en effet, c'est curieux. Par contre, vous connaissez mieux l'histoire des saints que... Il me dit, oui, mais il faut quand même que je me mette à la Bible. Je dis, oui, vous avez raison. Bon, il me dit, alors, on va prier, on va quand même, je vais pas vous infliger un je vous salue Marie. Je dis, non, un autre père fera l'affaire. Je dis, oui, alors on a fait un autre père. Oui, mais il reconnaissait que, voilà, les Saintes Écritures, c'est de côté. Et, ben, j'espère qu'il a changé depuis, hein. C'est un homme formidable. Un homme formidable. Alors, si quelqu'un veut pas le suivre, c'est qu'il a ses raisons. Voilà. Dieu ne forcera personne à le suivre tel qu'il le veut. Il est exigeant, c'est vrai. Et il a aussi ses raisons, Dieu. Hein? Mais si on veut pas le suivre, Dieu nous poussera plutôt à aimer les fables et les traditions et les dogmes inventés par les hommes. Et, en général, c'est pas les femmes, c'est les hommes qui inventent, hein, tout ça. Et puis, etc., etc. Et la personne qui ne veut pas suivre Jésus à la façon de Jésus, c'est-à-dire à la façon des Écritures saintes, eh ben cette personne, elle va être toute contente. Elle va être toute contente. Elle va être sûre d'être dans la vérité. Pourquoi? Ben parce que Dieu l'aide à croire à ses mensonges. Il me voit un esprit d'égarement pour qu'il croie à ses mensonges. Mais au départ, c'est pas pour que cette personne soit perdue que Dieu lui envoie un esprit d'égarement. C'est parce qu'il veut pas suivre. C'est parce qu'il aime pas la vérité. C'est pas parce que Dieu est injuste, c'est parce que Dieu est bon. Au moins, le reste de la vie qu'il aura sur terre, ben, il la vivra avec plein d'assurance, fausse, mais plein d'assurance. Voilà. Il est content. Mais tout le monde est content. Et la personne qui veut pas suivre Jésus est toute contente, elle est sûre d'être dans la vérité, et puis c'est comme ça. Nous, on a, en tant que chrétien, qu'est-ce que vous voulez avoir comme autre base que les Saintes Écritures? On ne peut pas avoir d'autre base que les Saintes Écritures. Voilà, donc, le message de Jésus, le message des apôtres, c'est ce qui est le plus important. Et donc, c'est un effet de sa bonté si Dieu leur envoie un esprit d'égarement. Par exemple, les Saintes Écritures nous disent que Jésus a été tenté comme nous, en toute chose. Moi, je suis pas tenté comme Lucas. J'ai pas les mêmes tentations. Je suis pas tenté comme Stéphane. Non, c'est pas vrai. Il y en a qui vont dire que Lucas, que Stéphane est un ivrogne. Pas du tout. Hein. Je dis des bêtises. Mais on a chacun nos tentations. Mais Jésus était tenté en tout. En tout. C'était pire que pour moi, hein. Les tentations que j'ai à côté, c'est rien du tout, parce que lui, il était tenté comme moi, comme Philippe, comme Dominique. Dominique, c'est épouvantable. Comme... il était, il rigole. Jésus était tenté en toute chose. Comme tous les humains, il était tenté. Ok. Et nous aussi, on est tenté. Mais on a le pouvoir de la grâce, et nous pouvons refuser de succomber à la tentation. C'est ce qu'il a fait, lui. Celui qui pêche, il le veut bien, non? Oh, ben, non, je veux pas le dire, c'est un gros mot. j'y suis allé, mais je voulais pas. Hein. Non, je voulais pas, mais bon, j'y suis allé quand même. Je sais pas pourquoi c'était plus fort que moi. Comme elle chante, oh, ça me chatouille, ça me chatouille, je peux point m'empêcher. Allez. C'est des blagues, ça. Plus fort que toi, mais c'est pas vrai. C'est une excuse qui tient pas devant Dieu, qui nous assure que celui qui vit en nous, c'est-à-dire Jésus-Christ qui vit en nous, est plus fort que celui qui est dans le monde. Les tentations viennent de l'extérieur, ça vient du monde, et nous, celui qui est en nous, nous donne la force pour dire non. Bon, des fois, on succombe. Bon. Mais on a cette puissance de dire non. Et si on succombe, ben, on confesse notre péché, et puis voilà. Puis on essaye de s'en détourner, puis on fait des progrès. Alors, si nous croyons ce que les Écritures nous disent, alors, face à la tentation, la Bible ne nous dit pas « Priez-moi pour que je vous protège. » Non, elle dit, dans 1 Jean 5,18, « Gardez-vous vous-même et le diable ne vous touchera pas. » Voilà, gardez-vous vous-même. Ben, on fait preuve de prise de responsabilité, de maturité. Vous voyez, on apprend, on pratique, on progresse, et ainsi on court vers le but que Dieu nous a fixé. L'apôtre Paul dit « Je prétends pas avoir atteint le but, mais oubliant ce qui est en arrière... » Tiens, je vais me faire penser à Canteloup. Il dit « Oh, madame comment c'est Ségolène. Ségolène. Oh. Oubliant ce qui est en arrière, Paul il dit « C'est pas que j'ai atteint le but, mais oubliant ce qui est en arrière, je fonce vers le but. » Et voilà ce que dit l'apôtre Paul. Hein? Moi, je trouve que c'est pas culpabilisant de, c'est encourageant de connaître les principes de l'évangile, parce qu'on sait où on en est d'une façon absolue, parce que la Bible, c'est un message absolu. C'est pas les imaginations, les divagations de quelques religieux planeurs, ou intellectuels, ou... Vous savez, ces espèces de schizophrènes qui entendent des voix sans arrêt, là. Bon, il y a des vrais prophètes, mais la plupart, c'est des schizophrènes, ils entendent des voix... Enfin bon, Jésus a été tenté, comme nous, en toute chose, sans commettre de péché, nous dit la Bible dans Hébreux 4, 15. Et nous, alors? Eh bien, nous, on a déjà tous péché. Donc, on pourra jamais écrire qu'on a été tenté, mais qu'on a... que comme lui, on n'a jamais péché. Non, on a déjà tous péché. Tous. Mais nous avons été, et nous pouvons, si vous n'êtes pas encore, vous pouvez être lavés de vos péchés par l'expiation de Jésus-Christ. Alors, je peux vous le dire comme ça, puis vous laisser comme ça avec ça. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'expiation. C'est un mot qui est compliqué, on l'emploie pas dans le monde des affaires, on l'emploie pas dans le monde du cinéma, on l'emploie pas dans le monde artistique. Non, le mot expiation, c'est un terme biblique, si vous voulez, en quelque sorte, pas seulement, mais aussi et surtout biblique. Dans le sens des Saintes Écritures, expier, ça veut dire subir le châtiment d'un acte pécheur. Et le mot pécheur, le mot péché signifie erreur. Un pécheur, c'est quelqu'un qui commet une erreur. Donc, dans le sens des Écritures, expier, c'est subir le châtiment de quelqu'un qui a commis une erreur. C'est clair? Donc, je reviens à ce que j'ai dit, nous pouvons être lavés de nos péchés par l'expiation de Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous pouvons être lavés de nos péchés parce que Jésus a subi le châtiment de nos actes d'erreur, de nos péchés. Jésus a subi la mort à la croix, la mort que nous méritions, parce que Dieu avait dit « l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra ». Il est mort à notre place par amour, et quand on croit ça, en cette rédemption, le mot rédemption, c'est aussi un mot que les gens... Moi, j'ai demandé à des pasteurs en Afrique, ça ne veut même pas ça voulait dire rédemption, ça veut dire rachat. Jésus a payé le prix pour que nous puissions être sauvés. Eh bien, quand on croit ça, quand on croit qu'il a expié nos fautes, quand on croit qu'il nous a rachetés, quand on croit au fait qu'il est mort à notre place, c'est nous qui méritions de mourir, mais qu'il est mort à notre place, alors nous comprenons que nous avons à nous repentir. Se repentir, c'est pas regretter d'avoir fait des bêtises parce que ça va nous coûter cher. Non. Se repentir, c'est pleurer en devant Dieu qu'on a offensé. J'ai offensé Dieu. C'est l'horreur de prendre conscience qu'on a offensé Dieu. C'est ça, se repentir. C'est pas dire « Ah, ben je regrette, j'ai encore fait une bêtise, ça va me coûter cher, Non, c'est pas ça, se repentir, c'est pas regretter. Quand nous le faisons, quand nous nous repentons, Quand nous venons à lui, il ne nous rejette pas, on l'a lu tout à l'heure, il ne rejette pas celui qui vient à lui. Il vient habiter en nous, il efface l'ardoise, il efface nos péchés, il met sur notre compte sa justice et il nous voit aussi justes qu'il l'était lui-même. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, nous nous faisons baptiser en adultes consentants en démontrant publiquement devant l'Église que nous croyons en lui et qu'on meurt à notre ancienne vie. C'est ça le symbole du baptême. Le baptême, c'est par immersion. Le mot baptême signifie immersion. C'est du grec. Ça veut dire un mot grec. Donc, on est plongé dans l'eau pour montrer qu'on disparaît de la terre des vivants. On n'est plus dans notre état normal. On est hors de notre élément vital. On est plongé dans l'eau. Le pasteur nous laisse 5 heures là-dedans. Non. Il plonge et puis il nous sort tout de suite. Hein. Donc, nous disparaissons de la terre des vivants. Et quand nous ressortons des eaux du baptême. Et c'est la démonstration, le symbole du fait que nous allons vivre une nouvelle vie. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est pas parce que vous avez été trempé dans l'eau que tout à coup vous êtes transformé. Non, on est transformé petit à petit. D'accord ? C'est clair ? Alors vous voyez, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est difficile d'expliquer ça mieux. Je ne sais pas comment je pourrais faire pour le dire mieux. Peut-être je vois la Michou à côté de moi, là juste devant moi. Quand j'ai épousé Michou, j'ai pas épousé la religion du mariage. J'ai épousé une personne. Eh bien, quand on vient à Jésus, on n'épouse pas une religion. On épouse la personne de Jésus-Christ. On se lie à Jésus-Christ. C'est ça. Et puis, évidemment, se liant avec Jésus-Christ, on est obligé de se rendre compte qu'il est en train de bâtir son église. Alors on se met à fréquenter les gens qui croient comme nous. Alors, il y a des tas d'églises, vous pouvez choisir laquelle vous voulez. Moi, j'ai choisi, je suis sorti de tout ça, moi. Et puis, je vis l'église, c'est-à-dire l'assemblée, on est ensemble, entre personnes qui croyons la même chose, et nous nous entendons bien, et nous avons des projets, nous avons des buts communs, c'est parfait comme ça. Mais vous pouvez choisir, hein, il y en existe plein. Les pentecôtistes, des baptistes, des branhamistes, des méthodistes, des dynistes, des bibliques, etc., etc. Mais ce qui compte, c'est de connaître la personne de Jésus. La personne qui entre dans votre vie, et que vous suivez, avec qui vous marchez jour après jour. Et cette personne qui vient dans votre vie, elle connaît votre vie. Dieu, il connaît votre vie. Il sait, Jésus le Fils, il sait encore, j'allais dire, il sait mieux que le Père. En quelque sorte, oui, parce que lui, il a vécu dans un corps de chair, donc il peut compatir. Ça aussi, c'est la Bible qui nous dit. Il peut compatir. Il sait ce que c'est. Là, en ce moment, j'ai froid aux pieds. Ça m'embête. Eh ben, lui aussi, il a eu froid aux pieds. Michou, elle a mal à l'épaule en ce moment. Ben, il sait ce que c'est. Lui aussi, de temps en temps, ça lui arrivait comme Michou de se cogner en sortant de la douche. Et oui, faut arrêter ces histoires. Et puis, il mangeait pas trop de piment non plus, parce qu'il savait ce que ça fait. C'était un homme avec un corps, la même chose que le nôtre. Et si tu fais une bêtise, il est compatissant parce qu'il connaît, il sait, il comprend. Alors, il va pas divorcer d'avec toi parce que tu fais une bêtise. Il sait que la chair est faible. Notre esprit est ardent, mais notre chair est faible. Alors quand tu as fait une bêtise, tu vas lui parler de ta bêtise comme un gamin qui va parler à son papa. Papa, j'ai fait une bêtise, je t'ai piqué 10 balles. Vraiment, Puis le papa, il dit, bon, ben écoute, tu vas nettoyer ma voiture et puis... Vous voyez, Dieu châtie ceux qu'il aime. Et puis tu vas lui parler, et puis même il va pas forcément te châtier, mais simplement il faut rétablir la communication avec lui. Il n'est pas rancunier, il va pas te remettre ça sous le nez sans arrêt. C'est le diable qui t'accuse sans arrêt, qui te remet sous le nez les bêtises que t'as faites. C'est pas Dieu. Alors, il vous aime toujours. Vous savez, je vous ai parlé des points au commencement, des points communs que nous avons avec Jésus, mais il y a quand même une chose qui nous différencie terriblement de lui, c'est que nous sommes nés avec la marque du péché sur nous. Tous les hommes, toutes les femmes, on vient au monde avec cette marque-là, et ça aussi c'est écrit depuis le jardin d'Éden, l'humanité, tout ça, on est marqué. Lui, il est né sans cette marque du péché. Il est né aussi pur que l'était Adam avant qu'il pêche. Jésus était pur, aussi pur que Adam avant qu'il fasse sa bêtise au jardin. C'est pourquoi la Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 15, 45 que Jésus-Christ est le nouvel Adam. Il est le nouvel Adam. On va lire 1 Corinthiens 15, 22. Puis après j'arrête, hein, parce que là je m'aperçois que je suis un peu long. 1 Corinthiens 15, 22. J'aime tellement parler de Jésus, j'aime tellement parler de ces choses, je trouve que c'est tellement intéressant, et c'est tellement logique, c'est une autre logique, peut-être que c'est la logique du monde, mais il y a une logique qui est imparable là-dedans. C'est d'une perfection, c'est magnifique. 1 Corinthiens 15, 22, il est dit, et comme tous meurent en Adam, c'est-à-dire que quand Adam est mort, c'est-à-dire quand il a été séparé d'avec Dieu, ben, toute l'humanité a été séparée d'avec Dieu. De même, aussi, tous revivront en Christ. C'est-à-dire que nous pouvons sortir des ténèbres de la mort pour rentrer dans le système de la vie et de la vie éternelle en Jésus-Christ, parce qu'il est le second Adam. Alors, on peut lire 1 Corinthiens, toujours 15, verset 45, où il est clairement dit, verset 45, c'est pourquoi il est écrit... C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant, c'est-à-dire une âme. Le dernier Adam, Jésus, est un esprit qui communique la vie. C'est clair? Donc Jésus, lui, il n'est pas né avec la tâche, avec cette tare, avec ce truc qu'on a hérité d'Adam. Et c'est pour ça qu'on a tous péché, on a besoin du pardon du péché. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que Jésus est le nouvel Adam. Et je vous l'ai expliqué, je pense que c'est clair. Alors, le dernier Adam, celui qui a porté vos péchés, vous communique la vie. Mais il y a une condition. Il faut payer. C'est cher, il faut faire des dons à Michel Jonathan. Non, c'est pas ça. Il y a une condition. C'est que vous la vouliez, cette vie. Si vous la voulez pas, il vous la donnera pas. Parce qu'il est poli. Il va pas vous forcer. Il va pas venir poser des bombes chez vous pour vous forcer, bande de comment ils disent, mécréants, ou je ne sais quoi. Non, Jésus force personne. Il vous propose par amour, il a tout fait par amour pour que vous puissiez être sauvés, il vous l'offre, il vous le communique. Et bien si vous le voulez pas, vous le prenez pas, puis c'est tout. Il donnera jamais la vie éternelle à une personne qui n'en veut pas. Mais vous qui avez reçu la vie éternelle, vous avez en vous la vie de l'éternel. Jésus en vous. Alors à vous maintenant de croître, de progresser, de ne jamais vous décourager à cause de vos faiblesses, de ne jamais vous déprécier, comme je disais dans mes dernières prédications. Vous êtes aimés, ayez foi en lui. Et que la paix soit avec vous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir et à bientôt, que Dieu vous garde. Au revoir.